Bien, bonjour. Alors, il y a toujours une part de joie et une part de privilège de partager ensemble la parole de Dieu, mais il y a aussi une part de crainte et de responsabilité en cela. Mais comme j'aime à dire, tout est grâce. Et j'aime aussi dire que je m'en remets à la grâce de Dieu. C'est une bonne formule. À la relecture de l'évangile de Jean, que nous étudions actuellement dans nos différents groupes de quartier, dès le premier chapitre, j'ai été séduit par les premiers mots de Jésus, échangés avec deux compagnons qui, par la suite, vont devenir les deux premiers disciples de Jésus. Le dialogue donc entre Jésus et ses deux amis, ces deux vis-à-vis, là, ce dialogue est très court, il est très concis. Il se résume à trois petites phrases presque insignifiantes contenues dans un seul verset. Et je vous invite à les découvrir ensemble. Ouvrez vos Bibles, si vous les avez, dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er. Donc Jean, chapitre 1, les versets 34, versets 35 à 40. Le lendemain, Jean-Baptiste, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabbi, où demeures-tu ? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où ils demeuraient. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Alors, on arrête là notre lecture. Jésus passa, nous est-il dit, et alors qu'il marche, il entend derrière lui des bruits de pas. Il se sait suivi. Il se retourne et voit ces deux jeunes gens, André et un autre, un anonyme, qui en fait n'est autre que l'apôtre Jean, l'auteur de l'Évangile. Ces deux amis n'ont qu'une envie, aborder Jésus et lui parler, mais ils n'osent pas lui adresser la parole. Alors Jésus prend le devant, il se retourne et il leur dit « Que cherchez-vous ? » « Maître, où demeures-tu ? » balbutient les deux amis. « Venez et voyez, leur répondra simplement le Seigneur. » André et Jean sont des jeunes gens en quête de vérité et de spiritualité. Ils sont croyants, jusque-là ils étaient disciples de Jean-Baptiste. Et comme beaucoup d'êtres humains, ils sont habités par une conscience du divin. L'image de Dieu, que le savant appelle l'imago Deo, cette image de Dieu est encore présente chez l'homme et elle nous renvoie souvent naturellement vers le Créateur. Cette image tisse cette relation qui permet plus qu'on ne le croit de s'accrocher à Dieu, de s'intéresser à lui, de le percevoir. Et par cette conscience de Dieu en nous, la Bible dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, qui dit que Dieu a mis dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Et donc cette conscience de Dieu en nous nous permet d'échanger librement et de construire une communion exceptionnelle, extraordinaire avec le divin. Dieu est manifeste dans nos vies d'une façon ou d'une autre, parce que nous sommes des enfants et des femmes avec une sensibilité spirituelle qui nous vient de la Genèse, de nos origines. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et quand André et Jean voient Jésus et qu'ils entendent dire de lui, par la bouche de Jean-Baptiste, qu'il est le Fils de Dieu, le Messie, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, alors là, quelque chose se passe. Ils ne peuvent l'expliquer, ils se sentent irrésistiblement attirés par le Seigneur, ils se sentent attirés à le suivre. C'est incroyable. Ils sont là, ils ont là devant eux la réponse à leur interrogation, à leur investigation, à leurs attentes. Jésus, le Seigneur, le Sauveur, celui qui devait venir et qu'on attendait. Lui, la lumière du monde, comme il est dit au début de ce chapitre, qui luit dans les ténèbres. Le Christ est là, présent, accessible. Il émerveille, il étonne, il est incomparable. Jésus est-il vraiment la solution au problème ? Est-il encore et toujours le chemin, la vérité, la vie qui mène au Père ? Suivre Jésus d'un pas décidé ou hésitant est la première étape pour aller à sa rencontre et le découvrir réellement tel qu'il est. Chercher Jésus-Christ dans les évangiles, dans l'Église, ou avec l'aide d'un ami chrétien, suivez-le et alors vous le verrez se retourner, vous verrez Jésus se retourner vers vous et vous demander « Que cherchez-vous ? En fait, que cherches-tu ? Quel but t'es-tu fixé ? Quel sens veux-tu donner à ta vie ? Sens les honneurs, la notoriété ou la gloire que tu recherches ? Est-ce la poursuite de richesses, l'appât du gain qui t'anime ? Ou cherches-tu simplement à mener une vie tranquille, confortable, rangée, installée ? Que cherches-tu ? Que cherchez-vous ? Une philosophie, un mode de vie où Dieu n'aurait pas sa place, dans lequel il ne serait une vie dans un mode de vie dans lequel il ne serait qu'un figurant ? As-tu fait le choix d'une existence dénuée des choses divines, où le simple nom de Dieu est annihilé ? Ou bien au contraire, es-tu en quête d'une nouveauté de vie, d'une marche spirituelle sous le couvert de la grâce de Dieu ? Que cherchez-vous ? Demande encore Jésus aujourd'hui. Il vous pose la question, que cherchez-vous ? Que cherches-tu ? Et toi seul peux lui répondre, bien évidemment. Et à cette question de Jésus, les deux disciples répondent par une autre question. Rabbi ou maître ? Maître, où demeures-tu ? Ce sont là les premières paroles qu'ont échangées les deux premiers disciples avec Jésus. Étrange question hein, pour un premier contact, pour un premier contact. Hein. Où demeures-tu ? Et le jeune dirait, où est-ce que tu crèches ? C'est une façon contemporaine, à cette époque, de manifester une adhésion à la pensée philosophique et à l'action menée par le maître. En fait, c'est une tournure de phrase qui suggère indirectement une inscription à l'école du maître. Je veux devenir ton disciple. Où est-ce que tu demeures ? La question reconnaît implicitement chez Jésus une autorité, une figure hors du commun. Où demeures-tu ? L'interrogation insinue aussi un désir et une autorisation d'intégrer la compagnie de Christ, de faire partie de son équipe. Pour faire meilleure connaissance, pour s'instruire à son contact, à son enseignement, ses expériences, pour recevoir de sa nature divine. Et donc s'inviter à demeurer chez Jésus représente un ralliement, un acquiescement à ce qu'il est, à ce qu'il prêche. En fait, c'est une conversion. C'est une conversion. André et Jean ont appris par leur ancien leader, donc Jean le Baptiste, que Jésus était l'envoyé de Dieu, son représentant sur terre, et ils ont la chance, entre guillemets, de croiser son chemin. Et sans hésiter, donc instinctivement, ils le suivent. Où demeures-tu, Jésus ? Ils révèlent ainsi leur disposition de cœur et leur désir de marcher et de s'engager avec lui et devenir ses compagnons d'œuvre et ses disciples. Savoir où quelqu'un habite, connaître son lieu d'habitation, c'est un peu avoir accès au mystère de son être, c'est dévoiler un peu une part de secret, d'intimité. Quand on invite un frère, une sœur, un ami, un voisin à entrer chez soi, on accepte de s'exposer, de montrer une partie de nous-mêmes, de notre mode de vie, nos tendances, nos goûts, nos habitudes, notre caractère, notre personnalité. Notre intérieur, parfois, nous trahit qui nous sommes. Personnellement, pour m'aider à cerner grossièrement une personne et à savoir ce qu'il est, je m'appuie sur deux indicateurs, sa voiture et sa maison. Montre-moi ta voiture, je te dirai qui tu es. Montre-moi ta maison, je te dirai encore plus qui tu es. Jésus n'avait pas de voiture. Avait-il seulement une maison, une demeure? Habitait-il un palais, une cabane chez ses parents? Louait-il un appartement? Était-il colocataire? Était-il logé chez des amis? Nous n'en savons rien. En fait, peu importe la nature et l'endroit, la demeure n'est pas à évaluer dans un bien immobilier, ni à situer dans un lieu géographique. D'ailleurs, au sortir de la maison, les deux amis ne disent rien de la maison comme telle. Ce dont ils parlent, c'est de la personne rencontrée. Comment elle les a fascinés. Comment Jésus a captivé ses hôtes par ses messages de vie et d'espérance. La demeure la plus réelle de Jésus est au-dedans de nous. Jésus nous demande de demeurer en lui et de construire cette habitation avec les matériaux divins, à savoir l'amour de Christ et la parole. Je vous cite trois versets dans l'évangile de Jean. Jean 15, verset 4. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Jean 15, verset 9. « Demeurez dans mon amour. » Et Jean 8, 31. « Demeurez dans ma parole. » Donc nous sommes appelés à demeurer en lui à travers son amour et à travers sa parole. Et nous sommes tous appelés à être un proche de Christ et à le rendre présent dans notre maison matérielle, mais aussi à le rendre vivant dans notre demeure intérieure, notre cœur. J'aime beaucoup ce verset de Josué qui est très connu, Josué 24, verset 15, qui devrait retentir dans chaque foyer comme un slogan, hein, criant « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Jésus veut s'inviter dans notre existence et y développer un lien d'amour, une relation indéfectible. Il est là, à la porte de notre maison, de notre cœur. Et l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, il dit, voici, c'est Jésus, il fait parler Jésus, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Une chose est certaine, c'est que quand on demeure avec Jésus ou quand on demeure en Jésus, cela entraîne nécessairement, obligatoirement, l'emménagement du Seigneur chez vous. Donc si Christ vient, si vous venez habiter en Christ, il vient s'installer et emménager nécessairement chez vous. Je voudrais lire avec vous deux versets. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu est en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Et plus loin, au chapitre 4, verset 13, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son Esprit. Donc il y a danger. Si vous venez chercher Jésus, il vient demeurer chez vous. Où demeures-tu ? Réponse de Jésus, vous voyez cette magnifique bâtisse là-bas au bout de la rue ? Eh bien, ce n'est pas là que j'habite. Ni cette cabane modeste en face. Non, Jésus leur répond à cette question, où demeures-tu ? Il leur dit, venez et voyez. Alors, Jésus demande, que cherchez-vous ? Ensuite, André et Jean pose cette question, « Maître, où demeures-tu ? » Et maintenant, Jésus, qui les prie de venir, de le suivre, en disant « Venez et voyez. » Quand on cherche Jésus et qu'on aspire à mieux le connaître et marcher à sa suite, alors la meilleure solution et la plus efficace, c'est de sonder, interroger les Écritures. Discerner entre ces lignes, le Dieu incroyable qui aime ses créatures, l'homme et la femme, c'est se laisser enseigner par la parole de Dieu. Et au cours de l'exploration de la Bible, on apprend et on comprend le cœur de Dieu et son immense amour. Et c'est ainsi que la foi naît et croit et grandit, selon le principe de Romains 10, 17, qui dit cela, je cite, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et donc, par ce biais, on nourrit l'intellect, le domaine de la connaissance, on pose les bases des doctrines chrétiennes, on définit les desseins de Dieu, les plans de Dieu, on s'enracine sur les fondements bibliques. Et donc là, on se situe au niveau de l'entendement, au niveau de la raison, qui influence et agissent bien sûr directement sur notre patrimoine spirituel. Mais Jésus, ici, propose plus, il propose quelque chose de mieux. Il suggère que la croissance et l'épanouissement de la foi passent aussi par les sens. Venez et voyez. Pas seulement par l'écriture, mais aussi par les sens. Les cinq sens qui nous équipent, donc la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût, contribuent à égayer le quotidien, notre quotidien, à rendre notre existence plus belle et plus confortable. Par eux, on apprécie la justesse, la conformité des choses, leur exactitude. Par eux, donc par ces sens, on interprète toute la dimension du bien-être, du bonheur qui est distillé dans la nature. Imaginez la privation de la vue ou de l'ouïe, par exemple. Cette privation peut s'avérer un réel handicap qui restreint la juste perception de la réalité. Et ce serait aussi une source de frustration. Et même si cela peut paraître subjectif, on peut aussi compléter la beauté de l'Évangile, s'émerveiller de l'amour de Christ en laissant nos sens naturels s'activer, capter, s'accaparer du côté émotionnel, du côté sentimental, du côté sensuel, c'est-à-dire relatif au sens, entre Dieu et le chrétien. Il n'est pas interdit de ressentir des émotions, des sentiments. Venez et voyez, jugez par vous-même, expérimentez Jésus, interrogez-le, éprouvez-le, mettez-le au défi, appréciez sa douceur, goûtez sa compassion, écoutez-le, regardez-le, dansez, chantez, goûtez à son grand salut. Le psalmiste dit dans Psaume 34, verset 9, sentez, voyez, comme le Seigneur est bon. Sentez et voyez comme le Seigneur est bon. Le Seigneur, il s'apprend, mais aussi il se ressent. Il se vit. On dépasse la théorie et on entre dans le vécu. On vit des émotions, on vit des sentiments forts. On baigne dans une paix et une joie qui ne s'expliquent souvent pas, mais qui sont bien là, réelles. Je pense que ce n'est pas de l'autosuggestion de dire qu'on sent et qu'on voit la beauté du Seigneur. La bonté du Seigneur. Dans beaucoup de mes frères et sœurs dans la foi, je vois la présence de Christ en eux et ils reflètent sa personne. Ce n'est pas une hallucination de ma part. Souvent, certains cantiques déclenchent en moi et malgré moi un flot d'émotions, tant ils sont touchants par leur message et leur mélodie, et ma voix devient souvent trémolo au point de ne plus pouvoir chanter. Ce matin, on a chanté « Majesté, je te donne tout, ton sang », ce sont des chants qui touchent, qui sont forts. Et ce n'est pas d'angélisme. Dans les grands moments de solitude ou dans le temps de l'épreuve, d'où nous viennent cette paix et cette sérénité qui nous habitent, ne proviennent-elles pas du Dieu vivant qui promet son aide d'en haut à ses fidèles? Comment expliquer en toute modestie ce sentiment d'être intouchable, parce que je suis un enfant de Dieu, parce que ma destinée est toute tracée, parce que ma vie se prolongera avec mon Sauveur dans l'éternité. Conformément à ce qu'il nous déclare, bien sûr. Je verrai mon Sauveur dans sa gloire. Et pour terminer, si tu n'es pas encore convaincu de l'amour de Dieu, de la majesté de Christ, eh bien, fais la démarche de voir par toi-même, comme l'ont fait André et Jean. Donc pour cela, il te faut suivre Jésus, marcher dans ses traces. Il te faudra demeurer en lui. Christ viendra demeurer en toi. Et alors, tu verras la gloire de Dieu, la seigneurie du Messie, le Christ. Et tu verras ta vie se transformer en disciple de Christ. À toi de jouer, donc. Merci. Amen.